Vous écoutez, on lit pour vous.
La domination des milléniaux change l'industrie alimentaire. Un texte de Sylvain Charlebois paru le 29 février 2024 dans la presse. L'influence grandissante des milléniaux et de la génération Z provoque une certaine révolution générationnelle qui redéfinit non seulement ce que nous mangeons, mais aussi notre façon de penser la nourriture elle-même. La génération des milléniaux devient désormais plus importante que celle des baby-boomers dans notre pays, selon Statistique Canada. Au 1er juillet 2023, les milléniaux, nés entre 1981 et 1996, ont dépassé pour la première fois en nombre la génération des baby-boomers, née entre 1946 et 1965. Poussé par l'immigration, l'âge médian au Canada passe de 41,0 à 40,6 ans en seulement 2 ans. Par conséquent, le Canada est plus peuplé, plus jeune et la domination des boomers s'efface. La génération Z, née entre 1997 et 2012, s'agrandit et surpasse la génération X, née entre 1966 et 1980, et devient la troisième génération en nombre du Canada. Des projections nous indiquent qu'elle deviendra la plus importante dans les 30 prochaines années. Les implications d'une population croissante et plus jeune pour l'industrie alimentaire sont multiples. Les milléniaux se distinguent des autres générations par leur diversité raciale, leur niveau d'éducation plus élevé et leur maîtrise de la technologie. Ils font également face à des difficultés financières plus tard dans la vie, contrairement aux générations précédentes qui évoluaient généralement dans un marché du travail difficile ou une économie impitoyable à un plus jeune âge. Maintenant, à leur apogée économique, certains ayant des familles, les milléniaux ressentent la pression financière des taux d'intérêt plus élevés et des loyers à fort prix. Après une période de faible chômage et d'argent à bas prix, cette génération affronte une réalité difficile à gérer. Prenons par exemple l'épicerie. Plus de 86% des milléniaux recherchent activement des réductions et plus de 66% ont changé de magasin d'alimentation principal au cours des 12 derniers mois pour trouver de meilleurs rabais. Ces deux pourcentages sont les plus élevés, toutes générations confondues. De plus, 43% utilisent des applications de sauvetage alimentaire comme Fast Food ou Too Good To Go pour acheter des aliments à prix réduit, approchant de leur date de péremption. Là encore, le taux d'utilisation le plus élevé de toutes les générations. Auparavant, les milléniaux fréquentaient des magasins spécialisés à la recherche d'aliments plus frais, naturels, respectueux de l'environnement et portant des étiquettes claires. Cependant, leur nouvelle réalité financière a forcé un changement de priorité. Malgré cela, leurs valeurs ne disparaîtront pas et, à mesure qu'ils deviendront plus influents économiquement, ils façonneront l'industrie alimentaire. Les préférences des milléniaux pour la nourriture ethniquement diversifiée et les nombreuses collations continueront d'influencer les épiceries et les exploitants de services alimentaires. Notre récente enquête a révélé que 28,3% des milléniaux remplacent souvent les repas par plusieurs collations, contre seulement 8,7% pour les baby-boomers, le repas du midi étant celui le plus souvent remplacé. Fait intéressant, les milléniaux s'appuient sur leurs amis et leurs familles comme principale source d'information sur la nourriture, contrairement aux boomers, qui se tournent vers les professionnels de la santé. Ils prêtent également une attention particulière aux étiquettes alimentaires. Soutenus par les réseaux sociaux, les milléniaux ont défié l'industrie alimentaire plaidant pour des étiquetages plus précis, une meilleure source d'ingrédients et des choix plus sains. Malgré les défis financiers auxquels ils doivent faire face actuellement, ils continueront probablement d'influencer l'industrie et s'appuieront sur le groupe croissant de la génération Z pour forcer des changements pour le bien de tous. Par exemple, la préférence de la génération Z pour les sources de protéines autres qu'animales pourrait accélérer la transition vers une production alimentaire plus durable. Leur aisance avec la technologie entraînera également l'adoption du magasinage en ligne et des services de livraison de nourriture qui ont déjà connu une augmentation depuis la pandémie. De plus, l'accent mis par la génération Z sur l'authenticité et les expériences peut conduire à une augmentation de la restauration expérientielle et des offres alimentaires uniques. En accord avec leurs valeurs de durabilité et de communauté, ils sont également plus susceptibles de soutenir les producteurs locaux et à petite échelle. Alors que les milléniaux continuent d'exercer leur influence sur l'industrie alimentaire, la cohorte montante de la génération Z apportera son propre ensemble de préférences et de valeurs, façonnant davantage l'avenir de l'alimentation. Savoir comprendre et s'adapter à ces changements générationnels deviendra crucial pour les entreprises du secteur alimentaire afin de rester pertinentes et de prospérer dans les années à venir. C'était « La domination des milléniaux change l'industrie alimentaire », un texte de Sylvain Charlebois paru le 29 février 2024 dans la presse.
L'effet de l'âge. Un texte de Catherine Handfield, paru le 26 mars 2024 dans La Presse. Un écart considérable. Karine Darèche a deux enfants, un garçon et une fille. Son fils, l'aîné, est né en février. Lorsqu'il a commencé la première année, ses 6 ans bien entamés, il était prêt à apprendre à lire, à écrire et à compter. Sa fille est de la fin du mois d'août. Le premier jour de première année, elle avait encore 5 ans. Et elle voulait jouer, se souvient sa maman. Il est difficile de départager l'effet de l'âge de celui du tempérament ou de l'environnement. N'empêche, Karine Darèche l'a bien vu. Sa fille n'était pas aussi mûre en commençant l'école. Elle avait aussi une tête de moins que les autres, précise-t-elle. Au Québec, pour entrer à l'école, les enfants doivent avoir 5 ans au plus tard le 30 septembre. Ceux qui suivent attendent l'année suivante. Parmi les élèves d'une même classe, l'écart d'âge frôle 1 année. En maternelle, cette différence est considérable. Mère de 4 enfants, 2 vieux d'octobre et de décembre et 2 jeunes d'août et de septembre, Marie-Ève M. Scott a aussi observé un écart de maturité entre les 2 clans, dans les premières années d'école surtout. Pour mon fils, né en août, l'enseignante avait trouvé un truc pour qu'il reste tranquille. Elle lui faisait compter les autres élèves en rang, se souvient Marie-Ève, qui souligne que le passage au secondaire a aussi représenté une très grosse marche pour lui. Ses plus jeunes réussissent toutefois aussi bien à l'école que ses plus vieux. Karine Darèche, elle, croit que le mois de naissance de sa fille a joué sur le plan scolaire. Si elle avait pu commencer l'école plus tard ou redoubler 1 année, ce que ses parents ont souvent demandé, ça aurait été tellement plus facile, croit Karine. La fillette ira peut-être en cheminement particulier à l'école secondaire l'an prochain. Même si elle travaille fort, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Moins à l'université. Il est bien documenté que les bébés de classe réussissent en moyenne un peu moins bien que les doyens. On parle d'une moyenne. Ce n'est pas tous les enfants qui en souffriront. Professeur de psychologie retraité de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, François Gagné donne l'exemple des élèves qui font une entrée précoce à l'école. Ce groupe d'élèves manifeste des performances et une maturité supérieure, même aux plus âgés de la cohorte, souligne M. Gagné, qui cite les résultats de la thèse de son ancienne élève, Nadia Gagné. Les enfants doués sur le plan intellectuel, y compris ceux ayant aussi des difficultés sur le plan socio-affectif, ont tout intérêt, selon lui, à progresser à un rythme accéléré. Mais, de façon générale, les bébés de classe, ceux nés en été au Québec, ont de moins bons résultats scolaires que leurs camarades nés à l'automne. Et c'est particulièrement vrai au primaire. À quel point? Professeur d'économie à l'Université de Californie, Kelly Bédard a mené une étude sur la question en 2006 en se penchant sur les résultats à des tests internationaux en mathématiques et en sciences. À 9 ans, les bébés de classe avaient un retard allant jusqu'à 12 centiles sur les plus vieux. La question, c'est « Est-ce que cet effet perdure ?» dit Mme Bédard, jointe par la presse. La réponse, l'effet diminue avec le temps, mais il se maintient. À 13 ans, l'écart entre les plus jeunes et les plus vieux variait de 2 à 9 centiles. Fait surprenant, en Colombie-Britannique et aux États-Unis, les bébés de cohorte étaient un peu moins susceptibles d'aller à l'université, une sous-représentation de 7 à 12 %. Un exercice semblable a aussi été mené au Royaume-Uni l'année suivante. À 7 ans, les bébés de classe avaient en moyenne 25 points de pourcentage moins de chances d'atteindre le niveau attendu que les plus vieux. Encore là, la différence diminuait avec le temps. 4 points de pourcentage à 11 ans et 6 points de pourcentage à 16 ans. Mais elle ne disparaît pas complètement. Pourquoi l'écart persiste-t-il? Kelly Bédard fait le parallèle avec les équipes de hockey élite où les joueurs nés en début d'année sont surreprésentés. Ces derniers, plus développés, reçoivent plus d'attention, gagnent en confiance, ont les meilleurs entraîneurs. Et les plus jeunes sont laissés derrière, illustre-t-elle. En Suède. Au Québec, les bébés de classe sont ceux de septembre. Et c'est en septembre que naissent le plus d'enfants. La réalité est différente en Suède. Les bébés de classe suédois sont ceux nés en fin d'année. Et les taux de natalité sont en baisse en novembre et en décembre. Professeur de démographie à l'Université de Stockholm, Gunnar Andersson attribue cette réalité à deux facteurs. Le désir des parents d'avoir un congé parental en été et celui de mettre toutes les chances du côté de son enfant sur les plans scolaires et sportifs. C'est le genre de choses que considèrent les parents, particulièrement les plus instruits, dit Gunnar Andersson, qui a publié un article sur la question en 2019. Les parents ne doivent pas s'emballer pour autant. Ne paniquez pas, lance Kelly Bédard. Ma propre fille est bébé de classe. Elle est à l'université. Et tout va bien. D'autres facteurs, dit-elle, ont beaucoup plus de répercussions sur la réussite scolaire, comme le revenu annuel des parents. Aux yeux du professeur François Gagné, le simple fait d'être un garçon constitue un facteur plus important que l'âge relatif. Kelly Bédard se montre davantage préoccupée par un autre dossier, le surdiagnostic de TDAH chez les plus jeunes des cohortes. Impact socio-affectif. Les impacts socio-affectifs liés à l'âge relatif ont aussi été étudiés. Dans une revue de la littérature scientifique publiée en 2023, des chercheurs britanniques concluent que les bébés de classe sont plus susceptibles d'avoir des difficultés sur le plan des comportements, du bien-être psychologique et des expériences sociales, mais que cette différence est heureusement très petite. Vous écoutez L'effet de l'âge, un texte de Catherine Hanfield paru le 26 mars 2024 dans La Presse. Le TDAH de septembre. Les bébés de classe reçoivent davantage de diagnostics de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH. Ce fait a été démontré aux États-Unis, en Espagne, en Finlande, en Allemagne, en Australie, en Norvège, en Suède, au Canada. Au Québec, les enfants nés en juillet, août et septembre ont des taux de diagnostic et de médication du TDAH 35 % plus élevés que ceux nés en octobre, novembre et décembre. Selon une vaste étude de Cyrano, publiée l'an dernier, dont les résultats ont été publiés dans la presse. Ce sont 20,8% des plus jeunes qui ont reçu au moins un diagnostic de TDAH contre 15,4% des plus vieux. Le Danemark fait toutefois figure d'exception sur la scène internationale. Dans ce petit pays de Scandinavie, le mois de naissance a peu ou pas d'impact. Il est vrai qu'au Danemark, seuls les spécialistes sont en droit de poser un diagnostic de TDAH, mais les chercheurs avancent aussi une autre hypothèse pour expliquer cette particularité danoise, la pratique du « red shirting ». Le terme « red shirting » est inspiré de la couleur du chandail porté par les athlètes universitaires américains appelés à se développer une année supplémentaire. Sur le plan scolaire, il désigne la dérogation tardive. Au Danemark, 40 % des enfants nés en octobre, novembre et décembre retardent d'une année leur entrée à l'école pour gagner en maturité. C'est particulièrement le cas des garçons. Professeur titulaire au département de sciences économiques de l'ESG UQAM et co-auteur de l'étude québécoise, Catherine Eck souligne qu'au Québec, les taux de diagnostic très élevés traduisent probablement un surdiagnostic, encore plus marqué donc chez les bébés de classe. C'est en partie parce que l'on confond l'immaturité avec les troubles d'attention, pense la chercheuse. Le diagnostic de TDAH ne repose pas sur des marqueurs biologiques, mais sur l'observation de comportements. Faire des erreurs d'inattention, être dans la lune, perdre ses choses, etc. La fille de Karine Darèche, née en août, a reçu un diagnostic de TDA, léger, en quatrième année. Le fait qu'elle soit bébé de classe a-t-il eu un impact? Sa maman pense que oui. On l'a fait évaluer parce qu'elle en arrache à l'école malgré tous ses efforts à la maison, dit-elle. Et même si l'orthopédagogie figure à son plan d'intervention, elle n'y a pas droit parce qu'elle ne coule pas. La majorité des enfants au Québec reçoivent un premier diagnostic de TDAH entre l'âge de 6 et 8 ans, et c'est à cet âge que les chercheurs de l'UQAM ont observé les écarts les plus importants. À partir de 11 ans, l'effet de « moi » s'estompe, et après 13 ans, il semble disparaître. Selon Catherine Eck, on aurait avantage, dans la mesure du possible, à retarder l'âge du diagnostic et la prise de médication et aussi à permettre une certaine variabilité dans le moment d'entrée à l'école, comme c'est le cas au Danemark, aux États-Unis, en Alberta, en Nouvelle-Zélande. Pour obtenir une dérogation au Québec, il faut soumettre un rapport d'étude composé de plusieurs avis. Cette année, seulement 97 élèves québécois ont fait une entrée tardive, contre 41 passages précoces. Je comprends que certains enfants en ont vraiment besoin, mais je suis très mal à l'aise avec le fait qu'on médicamente des enfants sans être vraiment sûr qu'ils en ont besoin, dit Catherine Eck. Le redshirting a un côté moins reluisant. Selon Kelly Bédard, professeure d'économie à l'Université de Californie. Elle souligne qu'aux États-Unis, les enfants qui en bénéficient sont essentiellement issus de milieux favorisés, ce qui risque d'exacerber encore plus les inégalités. Pour la chercheuse, il est difficile de changer le système pour pallier l'écart d'âge. Mais une chose est clairement importante. Il faut être conscient que ces écarts existent et en tenir compte. TDAH ou immaturité? Avant de faire évaluer un enfant, les parents et le milieu scolaire devraient d'abord tenter une approche psychothérapeutique, estime la neuropsychologue et psychothérapeute Isabelle Fournier. D'autres facteurs peuvent avoir un impact sur les manifestations associées au TDAH, souligne Mme Fournier, qui pense au manque de sommeil, à la dépression, à l'anxiété. Lorsqu'elle travaillait en milieu scolaire, la neuropsychologue a ressenti une forme d'insistance pour évaluer des TDAH. Au privé aussi, remarque-t-elle, les professionnels peuvent se mettre une pression. Quand les critères diagnostiques sont là, il faut être solide pour conclure que l'enfant n'a pas de TDAH, dit Isabelle Fournier. Isabelle Fournier a cessé de faire des évaluations neuropsychologiques et se concentre désormais sur l'accompagnement parental. Elle est aussi appelée à nuancer des plans d'intervention à l'école. Sa mission? Soutenir le développement des enfants, leur estime, leur sentiment de compétence. Quand on est moins dans l'urgence, les changements arrivent souvent plus rapidement, note-t-elle. Ça vaut lorsque j'interviens auprès de mon enfant, et peut-être aussi, de façon plus large, avec nos petits-enfants qu'on veut faire diagnostiquer. Vous écoutez « L'effet de l'âge », un texte de Catherine Hanfield, paru le 26 mars 2024 dans la presse. Hockey Québec à la recherche de solutions. C'est une réalité connue depuis de nombreuses décennies, mais qui ne change pas. Les enfants, nés dans les derniers mois de l'année, sont sous-représentés dans les équipes élites des sports contingentés. Hockey Québec cherche des solutions, a appris la presse. Le problème qu'on a, c'est le format de division de 24 mois. Ce sont toujours les mêmes joueurs, nés aux mêmes dates, qui ont le désavantage, indique Jean-François Leblon, directeur programme et formation à Hockey Québec. Au hockey, les divisions M9, M11, M13, etc., couvrent deux années de naissance, du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante. Au sein d'une équipe, les plus vieux joueurs sont ceux de janvier et les plus jeunes sont nés en décembre. Les enfants de janvier, plus développés, s'en trouvent favorisés. Plus c'est élite, plus l'effet de l'âge relatif se voit, affirme Jean-François Leblon. Professeur de psychologie à l'Université Laval, Simon Grondin a mis cette iniquité en lumière dès 1982 dans son mémoire de maîtrise. Et plus ça change, plus c'est pareil. Lorsque les Remparts de Québec ont gagné la Coupe Memorial l'an dernier, les trois quarts étaient nés dans les six premiers mois de l'année, souligne-t-il. Le tiers était des bébés de janvier. L'avantage des plus vieux se fait sentir dans les sports d'équipe élite, où il y a une compétition dans l'obtention des postes, explique Simon Grondin. Dans les principales ligues de hockey junior au Canada, là où évoluent les joueurs appelés à jouer dans la Ligue nationale, environ les deux tiers sont nés dans la première moitié de l'année. Et cela signifie, selon Simon Grondin, qu'environ 15 % des joueurs de ces ligues ne devraient pas y être et que 15 % des joueurs nés dans la deuxième moitié de l'année auraient dû y être. Un comité à Hockey Québec explore des solutions depuis cette année dans le cadre des réflexions sur les divisions de classe, confirme Jean-François Leblond. Ça nous intéresse tellement qu'on ne veut pas prendre de décision hâtive. On a décidé de continuer nos discussions pendant une année supplémentaire avant de vouloir appliquer un changement, indique M. Leblond. Multiplier les talents. Parmi les solutions proposées par le professeur Grondin, c'est celle de réduire le nombre de mois des divisions qui a le plus interpellé le comité. L'idée serait de former des divisions de 15, 18 ou 21 mois, ce qui permettrait à chaque joueur, à tour de rôle, de faire partie des plus vieux à un moment dans son parcours. L'idée est bonne, mais il faut la fignoler pour voir comment l'appliquer réellement, alors qu'annuellement, on insère de nouveaux jeunes dans le hockey, dit Jean-François Leblond, qui souligne que le décalage avec le reste du Canada créerait un autre problème. Il souhaite aussi regarder ce qui se fait ailleurs dans le monde, dans d'autres sports d'équipe. Dans le monde du soccer, où l'effet âge est parfois gigantesque, des clubs organisent de temps en temps des parties de bio-banding qui regroupent les joueurs en fonction de leur développement physiologique et non de leur âge. C'est le cas des académies de la Premier League au Royaume-Uni. Dans le recueil « La psychologie au quotidien », le professeur Grondin énumère aussi ce genre de solution. Regrouper les joueurs en fonction de leur taille, de leur poids, de leur ratio taille-poids, de leur âge osseux. On pourrait à tout le moins faire en sorte que le numéro sur le chandail des joueurs reflète leur âge afin de sensibiliser les entraîneurs. Si j'ai un souci dans cette affaire-là, c'est d'éviter le plus possible que Mozart ne meure dans l'œuf, conclut Simon Grondin. C'était L'effet de l'âge, un texte de Catherine Hanfield, paru le 26 mars 2024 dans La Presse.